RFI 8h30, à Paris 6h30, à Bamako et en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Vincent Dublange, à la une des paramilitaires en cache d'autres au Mali.
En cache et en remplace d'autres même. Les Wagner s'en vont, Julien, ils l'annoncent eux-mêmes. Africa Corps les remplace. Pas de commentaire pour l'instant à Bamako. En Côte d'Ivoire, le patron de la jeunesse rurale du PDCI est en détention provisoire, inculpé dans une affaire en lien avec la crise post-électorale de 2020. C'est en tout cas ce qu'affirme son avocat. Pas de confirmation judiciaire à l'heure où l'on parle. On entendra dans ce journal une autre robe noire, l'avocat du chanteur et militant Amron au Togo. Et il dénonce une vidéo d'excuses à Fornia Singbe sous la contrainte pour son client. On parlera de ce rapport de l'ONU sur les expulsions forcées, les déplacements forcés de la population sahraoui par le Maroc. Et puis notre dossier sur la Tabaski, c'est aujourd'hui au Sénégal. Et vous verrez que la patate et l'oignon sont également reines de la fête.
C'est officiel, le groupe Wagner plie bagage au Mali.
Le groupe privé paramilitaire fondé par le défunt Yevgeny Prigojine, repris en main ces dernières années par le pouvoir russe, cède officiellement sa place à Africa Corps, le corps africain, autre groupe paramilitaire, plus fermement sous la coupe du Kremlin. Correspondance régionale Serge Daniel.
À Bamako, dans les milieux officiels, aucune des sources contactées par nos soins ne confirme ou n'affirme le départ annoncé des mercenaires russes du groupe Wagner. On le sait, la junte malienne a toujours nié la présence de ces mercenaires sur son territoire, préférant le terme de présence d'instructeurs russes. Côté Wagner, le départ du Mali de ses troupes est annoncé après un peu plus de 3 ans de présence. La relève sera assurée par une autre structure, Africa Corps. C'est une organisation également paramilitaire russe, assurant en Afrique la défense des intérêts extérieurs de la Russie. Composée d'ex-Wagner et surtout de nouvelles recrues, Africa Corps est plutôt étroitement contrôlée par le ministère russe de la Défense. C'est un peu un changement quand on se souvient que Wagner était fermement dirigé par Evgeny Prigojine, certes proche du Kremlin, mais forte tête avant sa mort dans un accident d'avion en 2023. En quittant le Mali, Wagner dresse un bilan très élogieux de sa présence. Autre son de cloche, si la présence de Wagner a permis de reprendre des mains des rebelles à la ville de Kidal, la sécurité n'est pas revenue sur une grande partie du territoire national. En plus, Wagner a été accusé des actions sur les populations civiles par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme.
Au Mali, la libération jeudi à Bamako du secrétaire général du parti Convergence pour la démocratie, CODEM, Alassane Abba, avait été arrêté le 8 mai à son domicile bamakois par des hommes armés. Plusieurs partis et organisations avaient dénoncé une arrestation extrajudiciaire et demandé sa libération. Alassane Abba était connu pour ses prises de position tranchées contre la junte. Il réclamait notamment un retour à l'ordre constitutionnel.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
En Côte d'Ivoire, le chef de la jeunesse rurale du PDCI-RDA en détention provisoire, Innocent Yao Nguessan, est au pôle pénitentiaire d'Abidjan, l'ex-Maka. C'est en tout cas ce qu'affirme son avocat à RFI. Un avocat qui dit aussi qu'il est inculpé, son client est inculpé dans le cadre d'une information judiciaire ouverte depuis 5 ans en Côte d'Ivoire. Une enquête notamment pour des faits d'actes de terrorisme, d'attentats, de complot contre l'autorité de l'État et de participation à un mouvement insurrectionnel. Tout cela remonte en fait à la crise post-électorale autour de la présidentielle d'octobre 2020. Ces derniers jours, l'affaire s'est jouée en deux temps, Benoît Almeras.
Le 4 juin dernier, Innocent Yao Nguessan répond à une convocation de la PLCC, la police de lutte contre la cybercriminalité, selon le récit de son avocat, Émile Suibi. Le président de la jeunesse rurale du PDCI est visé par une plainte pour diffamation à la suite de la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux. Innocent Yao Nguessan passe la nuit en garde à vue avant d'être présenté au procureur de la République d'Abidjan, indique le conseil. Le magistrat du parquet classe cette première affaire sans suite, mais dans la foulée, il informe le militant du parti d'opposition qu'il sera conduit dans les locaux de la cellule spéciale d'enquête en charge des dossiers d'infraction à la sûreté de l'État. Là, un juge d'instruction l'inculpe et le place sous mandat de dépôt. Innocent Yao Nguessan est depuis incarcéré au pôle pénitentiaire. Pour son avocat, aucune précision n'a été donnée sur les actes qui lui sont reprochés. Maître Suibi dit ne pas comprendre pourquoi son client est inculpé aujourd'hui pour des faits remontant à 2020. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Et Benoît a également contacté le chef de la jeunesse urbaine du PDCI, Valentin Kouassi, qui dénonce une manœuvre qui fragilise la paix, je cite, dans ce contexte politique tendue en Côte d'Ivoire suite à notamment la radiation des listes électorales du patron du PDCI, Tidiane Thiam, suite à une décision de justice. Ni la direction du PDCI ni le parquet d'Abidjan n'ont donc pour l'heure répondu à nos sollicitations.
Du gaz lacrymogène, des journalistes brièvement interpellés. Il y avait de la tension hier à Lomé, au Togo.
Oui, important dispositif de sécurité, manifestation notamment contre la hausse du prix de l'électricité et puis contre la réforme constitutionnelle qui a renforcé le pouvoir de Fornia Singbe.
Le Togo où l'on sait enfin où se trouve le rappeur Amron.
Son avocat, maître Célestin Agbogan, confirme qu'il a été conduit à l'hôpital psychiatrique. Le musicien avait été arrêté par les gendarmes le soir du 26 mai. Vendredi, le rappeur, connu pour ses critiques envers le pouvoir, a publié une vidéo sur TikTok. Il affirme avoir souffert de troubles psychiatriques. Il présente également ses excuses au président du conseil Fornia Singbe, mais pour son avocat, cette vidéo a été enregistrée sous contrainte.
Cette interview, cette vidéo-là, je ne crois pas, moi je doute fort, je n'ai pas les preuves pour le dire, mais à mon analyse personnelle, ces déclarations-là ne sont pas libres. Il ne l'a pas fait sans contrainte. C'est ce que nous disons. Parce que là, on dit quelqu'un qui est affecté mentalement. Et quelques jours après, cette même personne, comme par miracle, il vient et il parle comme quelqu'un qui n'a jamais été malade, quelqu'un qui est à l'aise et qui parle et qui raisonne. Nous, nous dénonçons quand même la manière dont il a été interpellé et la manière dont il a été traité. Ça ne peut pas se passer comme ça dans un état qui se dit moderne, un état de droit. Non, quel que soit le cas qu'on lui reproche des propos malveillants à l'encontre du chef de l'État, ce n'est pas de cette manière qu'il devait être interpellé. Aucun de ses droits n'a été respecté, on l'a pris comme ça, et puis le procureur n'était pas informé. C'est après qu'on a produit un rapport pour informer le procureur de la République.
Maître Célestin Agbogan, avocat d'Amron, au micro d'Eva Massi.
Un rapport des Nations Unies met en garde les autorités marocaines contre les violations des droits humains du peuple sahraoui.
En cause, une vaste opération de destruction d'habitations, des déplacements forcés, disent les experts. Le Maroc nie les accusations et critique, je cite, ceux qui politisent les mécanismes de l'ONU. Dans la foulée, des reconnaissances par l'Espagne, par la France, de la souveraineté marocaine sur ce territoire jugé non autonome par l'ONU. De plus en plus d'entreprises multinationales débarquent. Citons par exemple Engie, General Electric, Vernova, Enim, spécialisées dans le domaine de l'énergie verte. Elles s'installent, d'après les experts onusiens, dans des zones désormais vidées de leurs habitants, Ouday Ibrahim.
Les rapporteurs de l'ONU reprochent au royaume chérifien de forcer les détenteurs de biens sur la côte atlantique du Sahara occidental, une zone concernée par le référendum sur l'autodétermination à se déplacer. Selon le rapport, des centaines de maisons ont ainsi été détruites ou incendiées en bord de mer entre 2022 et 2024. Les terrains des propriétés privées ont été confisqués, des projets touristiques et dans le domaine de l'énergie verte sont en cours de réalisation dans cette zone, indique le rapport de l'ONU. Les rapporteurs notent également une dégradation nette des droits humains avec la multiplication des intimidations et d'oppressions sur les habitants. Dans une lettre adressée au Palais Royal marocain, l'ONU demande des explications sur ses agissements, appelant le Maroc à respecter ses engagements au niveau de droits humains et du droit international. Les rapporteurs demandent aussi au Maroc de garantir au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination. Face à ces exactions, les défenseurs des droits de l'homme au Sahara occidental accusent Rabat de vouloir y changer les données démographiques en encourageant les Marocains à s'y installer.
L'an dernier, plusieurs dizaines d'États ont soutenu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Cette semaine, c'était au tour du Royaume-Uni et du Ghana, jeudi, et on en parle sur l'appli RFI.
L'Aïd, la tabaski, c'est aujourd'hui au Sénégal, et en plus du mouton, les bons ingrédients de cette grande fête musulmane sont la pomme de terre et l'oignon.
Le Sénégal a atteint cette année des records dans leur production. 450 000 tonnes pour l'oignon, 250 000 tonnes pour la patate, c'est une réussite sur le plan agricole, mais qui a des répercussions sur le panier de course des ménages pour la tabaski, Penaï Traoré.
Les Sénégalais sont de grands consommateurs d'oignons et de pommes de terre en temps normal dans des plats comme le yassa, le tiep, les frites et pommes de terre sautées et autres marinades. Mais en période de fête, surtout pour l'Aïd, cette consommation bondit. Kayire Diong est conseillère agricole et rurale.
La consommation double ou bien même ça se multiplie par 3 durant ces périodes de fête, surtout la fête de tabaski. Toutes les ménages font la cuisine à base uniquement d'oignons pour accompagner la viande. En même temps aussi de la pomme de terre, consommée uniquement en friture.
Il y a quelques jours, les acteurs de la filière oignon avaient rassuré les consommateurs à l'approche de l'Aïd sur la disponibilité et la baisse des prix sur le marché du fait de la surproduction cette année. Aline Diaye, président de l'interprofession de la filière oignon à Thiès.
Les sacs de 25 kilos à 6 000 francs et 6 250. Les prix détail à 300, maximum 350 francs actuellement. Cette année, il y a beaucoup de production. Les demandes de Tabaski sont très fortes. Chaque maison qui achète un sac de pommes de terre, un sac de l'oignon, environ. Mais c'est les grandes familles qui achètent deux sacs de pommes de terre et deux sacs d'oignon, seulement pour la Tabaski.
Pour permettre aux producteurs indépendants d'écouler leur stock de pommes de terre et d'oignons, l'Agence de régulation des marchés, l'ARM, a annoncé la suspension temporaire de leur commercialisation par les entreprises de l'agro-business.
Et pour la Tabaski, Laïd, il n'y a donc pas que le mouton, la patate, l'oignon, on vient de le dire, au Sénégal. Aux Comores, côté viande, la réalité est aussi différente de la plupart des pays. Ici, le cabri ou la vache sont souvent préférés. Les pratiques s'adaptent aux réalités locales. Ce choix n'est pas anodin, il révèle des adaptations à la fois religieuses, économiques, sociales. C'est ce que nous dit ce matin le sociologue Msa Ali Djamal. Il nous explique comment cette adaptation s'inscrit dans une logique proprement comorienne.
Il y a une forme de négociation religieuse avec les spécificités locales, les contraintes socio-économiques. Il n'y a pas un respect rigoureux de la pratique du sacrifice, mais plutôt il y a une tendance à chercher à préserver le sens tout en appliquant d'une manière différente que les autres pays. Par exemple, pour les religieux, l'essentiel, ce n'est pas de respecter les principes à la lettre, mais de préserver le sens. Il y a deux outils théoriques qui légitiment cet ajustement. C'est le concept de la facilité. La religion est une facilité. Deuxième outil théorique, c'est l'intention sincère. Ces deux outils offrent une légitimité aux fidèles, justement, d'adapter l'usage de l'animal selon la disponibilité locale. Donc, comme il n'y a pas l'élevage de moutons, mais plutôt des cabris et de bœufs. Les gens se regroupent en famille pour mutualiser les coûts. Ils achètent un bœuf. Toujours là, il y a l'esprit de respecter le principe religieux, mais en l'adaptant.
Les propos recueillis par Abdallah Nzembaba. On va terminer avec un peu de sport, si vous le voulez bien, Julien. Il y avait des matchs amicaux côté Afrique hier. En bref, quelques résultats. Maroc-Tunisie 2-0. Le Cameroun a battu l'Ouganda 3-0. L'Irlande et le Sénégal ont fait match nul en Irlande. Un but partout. La République centrafricaine a battu la Mauritanie. Et puis, à Casablanca, au Maroc, le Niger a battu le Gabon 4-3. Festival de buts auquel a assisté pour nous François Imfer Kataji.
Lorsque les Panthères du Gabon encaissent leur 4e but de la soirée à la 66e, le millier de supporters gabonais présents à Casablanca ne peut retenir sa colère contre le jeune gardien gabonais, Noubi Fotso, jugé fautif.
On voit la trajectoire du gardien, son placement. Mais apparemment, il comprend pas, il bouge les oreilles. Et ça paye cash.
Là, 4-1, ça fait mal.
C'est vache, ça fait mal. Ça fait mal, on est venu en espérant gagner, pas pour perdre.
Bien que le Niger a su creuser l'écart, les Gabonais n'ont jamais abandonné. Et le match s'emballe quand le défenseur nigérien Kata Koré est sanctionné d'un carton rouge. Gaylor Kanga, l'attaquant gabonais de l'Étoile Rouge de Belgrade, transforme immédiatement le coup franc direct d'une frappe enroulée qui finit au fond des filets. 4-3, les Gabonais pousseront jusqu'à la dernière seconde. Insuffisant, le capitaine nigérien et buteur Youssouf Oumarou est satisfait.
Oui, ils ont des attaquants très rapides. Vous savez, le football gabonais est vraiment physique. On s'y attendait. Donc après, quand on menait 4-1, comme je l'ai dit, on n'a pas pu bien resserrer les lignes. On s'est fait contrer sur des erreurs de marquage. Et bien voilà, c'est ça aussi le football. Ils ont fait 3 erreurs. On a eu la chance de marquer très tôt. Et on a gagné le match, alhamdoulilah.
Le Gabon a su obtenir un ticket pour la prochaine CAN qui se tiendra au Maroc, contrairement au Niger qui a manqué le coche pour un petit point. François Imfer Kataji, Casablanca, RFI.
Et il y a la Basketball Africa League qui se joue aussi en ce moment, les phases finales à Pretoria, tout comme la finale de la NBA nord-américaine. Et on en parle ce soir avec Hugo Moissonnier. 16h10, temps universel mondial sport.
Merci Vincent Dublange, à tout à l'heure.